Bonjour et bienvenue dans Session Lab. Avec Benjamin Sarallier et Jérémy Besset, nous sommes au carrefour des mondes, à Marseille, dans le sud de la France, et plus précisément au Dock des Suds, où se tiennent les showcases du Babel Music XP. À l'affiche de ce rendez-vous international dédié à la filière musicale, l'artiste franco-camerounaise Cindy Poche. A vécu entre le Cameroun où elle a passé son enfance et la France où elle est née et est revenue pour ses études littéraires. Sur son CV figurent de nombreuses collaborations, notamment avec le collectif lyonnais de Maloya, Tikaniki, dont elle a fait partie pendant 7 ans. Aujourd'hui, c'est en solo que Cindy Poche réinvente une chanson qui va droit à l'âme. L'écoute de son premier album, nourri de chants polyphoniques, impressionne par son ampleur et l'émotion brute qui s'en dégage. Son nom, In nomine corpus.
Je veux dire des choses avec ce corps. Je veux dire des choses avec ce corps. Je veux peindre les désirs en or et décider de jouir. Je veux dire des choses avec ce corps. Je veux dire des choses avec ce corps. Je veux peindre les désirs en or et décider de jouir encore.
Quittons les allées du Dock et leur ambiance électrique. Nous voici 5 heures avant le concert incandescent de Cindy Poche dans une rue du 2e arrondissement de Marseille, direction le bureau de prod du Babel Music XP. On s'installe au calme autour d'une table. Face à moi, une artiste qui s'appuie sur ses racines pour mieux dépasser les frontières, une trentenaire bien ancrée dans l'instant présent.
Ouais.
Cindy, bonjour. Bienvenue à Marseille, ici au Babel Music XP. Avec cette émission, tu le sais peut-être, on a pour ambition de dessiner en musique, bien sûr, les contours de ton portrait. Et pour ça, j'aimerais, si tu en es d'accord, que l'on revienne ensemble sur 3 aspects qui me semblent fondamentaux pour comprendre ta démarche. Ton rapport à ton propre corps, et donc à ta voix. Ton rapport au corps et à l'énergie des autres, notamment par le biais du chant polyphonique. Et ton rapport aux mots.
Ok, très bien.
Tu me regardes circonspecte, ça te va?
Très bien, allons-y.
Allons-y. In nomine corpus, au nom du corps donc, c'est le titre de ton premier album. Mais c'est d'abord le titre d'un morceau qui ne figure pas sur ce premier long format, mais sur Issemou, ton premier EP. Sur ce morceau, tu chantes « Je veux dire des choses avec ce corps, je veux peindre les désirs en or et décider de jouir encore. Toi qui m'aimes, m'aimes-tu ?» Que veux-tu dire avec ce corps, Cindy ?
Peut-être plutôt « Que veut dire mon corps par moi ?» En tout cas, peut-être que de le dire comme ça, ça me parle plus et ça parle plus à la démarche de base qui était une espèce de plongée un peu dans mes eaux profondes à moi. Mais je ne savais pas forcément ce que j'allais trouver, quoi. Je savais que j'avais besoin de dire quelque chose. L'impulsion de ce morceau, c'était une sensation vraiment d'étouffement et de...
Faut que ça sorte.
D'emprisonnement, quoi. Voilà, il faut que ça sorte. Et c'était aussi quelque chose qui parle du désir. en général et du fait de lui laisser de la place pour exister indépendamment, enfin en dehors de tout jugement moral ou, voilà, ça parle vraiment de liberté, de désir, mais tout ça d'un endroit de, voilà, il faut que ça sorte quoi. C'est...
Tu as confié que faute d'avoir pu apprendre à jouer du piano enfant, comme tu l'aurais souhaité, ton principal instrument a toujours été ton corps, donc plus précisément ta voix qui t'offrait un espace de liberté, un refuge. Et dans le même temps, tu dis, ce disque, donc ton premier album, est l'expression d'un besoin de reconvoquer mon corps dans ma voix. Et du coup, je me suis demandé à quel moment vous étiez éloignés, tous les deux.
Bonne question. Je pense que j'ai grandi au Cameroun, enfin en tout cas de mes 5 à mes 18 ans, je suis née en France. Et du coup, je pense que de manière assez générale, j'ai grandi dans un contexte où pour moi, la question du corps n'était pas vraiment un sujet. J'ai aussi grandi dans un contexte où la plupart des corps autour de moi me ressemblaient. Je trouve qu'il y a quelque chose dans justement le corps, enfin, dans ma culture camerounaise, dans, je sais pas, un rapport aussi à la joie, aux émotions, qui est peut-être un peu plus libre que ce que je constate ici en France. Et mon rapport à la voix, c'était pareil, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurais voulu faire du piano, mais c'est pas vraiment par défaut que je me suis servi de ma voix, parce que c'était là, quoi. C'était mon outil de joie, de purge, d'expression, d'autonomie, de liberté, enfin tout ça. Et voilà, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille où tout le monde chante et danse, chante en dansant, enfin, vraiment une grande liberté comme ça d'expression du corps. Et... je sais pas comment c'est arrivé ce moment où je me suis sentie déconnectée un peu. J'ai toujours été très très cérébrale, mais je m'en rendais pas compte, je pense. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais oui, du coup, c'est...
Faut retrouver cette sensation première, quoi.
C'est ça. Et puis, je suis très cérébrale. Et puis après, je me suis mise à avoir plutôt très envie de beaucoup méditer, enfin, plutôt d'apaiser mon esprit, etc. Et à un moment, je me suis dit, je fais beaucoup de méditation, des choses comme ça, j'en fais encore. Et à un moment, je me suis dit, mais je crois qu'il manque un peu l'aspect juste sensation. En tout cas dans ma pratique de la méditation. Et en fait, j'ai eu des polypes aux cordes vocales. Enfin, on a vu que j'avais des polypes aux cordes vocales à force de chanter sans prendre des cours depuis pendant des années. Et donc là, j'ai dû faire de la rééducation. Et c'était hyper compliqué pour moi parce que d'un coup, on me disait que quelque chose que je faisais avec mon corps de la manière la plus naturelle, ouais. C'est-à-dire que je me faisais mal, moi, en parlant, pas en chantant. En chantant, ça allait encore. Mais il y a vraiment ce truc de, ok, mes cordes vocales, mon corps me fait mal. Et donc, il faut que je maîtrise, en fait, mon geste vocal. Il faut que je fasse attention à comment je me sers de ma voix. Enfin voilà, le truc hyper explosif que tout le monde a en plus dans ma famille. Donc là, quand je rentrais en vacances, je me rendais compte en fait. Je me disais, ah, mais ça vient de vous en fait. Et maintenant, je suis obligée de me contrôler. Et je pense que cet endroit un peu de, ok, ma voix, il faut que j'en prenne conscience, il faut que j'en prenne soin. Je me suis vue à un moment donné peut-être perdre un peu la spontanéité que j'avais avec ma voix. Juste l'exploration avec les risques que ça peut comporter, on peut se faire un peu mal des fois, mais et je me suis dit en fait faut que je refasse confiance à mon corps et surtout faut pas que cet outil qui est la voix, je le considère comme une espèce de petite pierre précieuse à part qui doit donner un résultat précis esthétique, mais en fait plutôt c'est quelque chose qui va bouger avec moi. En fait, je sais pas, si je suis fatiguée, je marche plus lentement, c'est pareil, en fait, si mes cordes vocales sont fatiguées, elles font tel ou tel son et pas tel autre. Et réunifier, en fait, le regard, enfin, on les voit pas les cordes vocales, mais voilà, que je pose sur ma voix et me redire, mais c'est mon corps, en fait, donc...
La conscience, être en pleine conscience, si on peut parler de méditation.
Oui, ça peut être ça, ouais.
Pourquoi tu me brûles? Je veux rester froide de marbre. Oh, ça me casse. Pourquoi tu souffles sur moi, feu de malheur, feu de malheur? Pourquoi tu me touches, le brasier dans ma bouche me fait mal. Oh, ça me casse. Pourquoi tu ouvres mes bras, feu de malheur, feu de malheur. Hey. Je veux rester froide de même. Un samacar. Pourquoi tu souffles sur moi? Feu de malheur.
Aujourd'hui, quand tu composes de la musique, du coup, ça implique d'abord et avant tout ton corps, ta gorge, ta respiration. C'est par là que ça commence. Du coup, je comprends bien pourquoi. Et est-ce que c'est ta respiration et ton souffle qu'on entend en ouverture du titre Le Feu ?
Oui, exactement. Il se trouve que les sons que je fais, généralement, c'est parce que ça me fait du bien. Ça a vraiment cette fonction-là, déjà un peu énergétique et puis vraiment très physique. Et juste de faire... ça fait du bien. Et je pense qu'à ce moment-là, il y avait ce truc de le feu qui prend. Enfin voilà, on est toujours sur ces flamboyances, quoi. Ça me fait penser à Innominé Corpus aussi. Mais... Et en fait, juste de faire ça, ça me permettait d'expulser aussi une forme de fatigue, de lassitude. Ça a une fonction vraiment utile de bien-être presque, quoi.
Et quel est ce feu de malheur qui t'agace?
Les deux morceaux, Innominé Corpus et Le Feu, c'est vrai qu'ils sont finalement ils sont assez liés. Je m'en rends compte maintenant. Donc Innominé Corpus, il est dans l'album Il se mou et Le Feu dans l'album Innominé Corpus, mais tous les morceaux étaient vraiment faits dans le même jet. Et c'était encore une chanson qui parlait d'un endroit d'expression de désir, quoi. Mais de désir, vraiment d'un point de vue très large, du désir de vivre, de s'exprimer, d'exister, et d'une intensité aussi que j'ai, que je ressens et qui parfois me est vertigineuse. Et c'était vraiment comme un souhait de vivre les choses de manière moins intense, quoi. Parce que en fait, je sais pas, il y a des fois où je me dis que je vais pas y arriver, quoi. C'est trop, tu vois, c'est trop d'émotions, c'est trop d'intensité. Et c'est pour ça que je dis que je vais rester froide de marbre. En vrai, non, je ne me le souhaite pas. Mais je pense que c'était un moment où...
C'était trop.
Et...
Ouais, trop perméable à
c'est
tout.
Ça. Mmh. Et je pense que c'est aussi un moment... En fait, tous les morceaux, je les assume vraiment... Aujourd'hui, parce que pour moi, c'est des photographies vraiment émotionnelles. C'est le chemin aussi
que
j'ai pu voir de mes yeux, de comment je ressens et vis les choses. Et je pense que c'est un moment où j'arrivais pas à gérer forcément ça. Aujourd'hui, je dirais pas les mêmes mots. Mais je peux encore les dire, je peux encore les chanter sur scène parce que ça fait partie d'états par lesquels je suis passée et que ces états, ils sont quand même encore en moi. Donc après, ils sont devenus d'autres états. Aujourd'hui, j'ai moins peur du feu parce que je sais quoi en faire. Et notamment, je pense que faire cette musique, ça a été qu'en faire, quoi. Ouais.
Ils disent que la rareté fait la cherté, mais tout n'est pas si rare et tout m'est si cher. Et je t'aime toujours et je t'aime tous les jours. Et tu déposes un baiser sur mon cœur, c'est de l'amour. À pas du tout assez vite. Le rendez-vous c'est de te voir à pas du tout assez vite. Le rendez-vous qui m'a brisé dans tes bras, redondant d'amour. Redondant d'amour. Bout de mon cœur réduit en cendres, calciné par le feu du brasier du chaos. Mourir de ça, mourir de tout, mourir de nous. Si c'est comme ça, tue-moi avant que j'oublie tout. À pas du tout assez vite. Le rendez-vous qui m'habite, c'est de te voir. Le rendez-vous qui m'abrite, c'est dans tes bras.
bien compris, Cindy Poche, jusqu'à environ tes 20 ans, tu n'avais pas de vocabulaire musical et tu ressentais pas besoin d'en avoir un d'ailleurs. Et c'est lorsque tu es arrivée à Lyon pour suivre tes études littéraires que tu as commencé à apprendre ce vocabulaire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Ouais, j'allais en déjà, mais on me disait, tu l'as fait en quel tonat celle-là? Je sais toujours pas, c'est quoi déjà une tonat? Et oui, en fait... C'est une période où je gardais des enfants comme boulot après les études. J'étais nounou et j'ai adoré cette période de ma vie d'ailleurs. Et j'ai croisé une femme dans la rue qui parlait de musique au téléphone, dans un bus en fait. Et en fait, je l'ai poursuivie après la sortie du bus en disant je suis à Lyon depuis un an et demi, je suis chanteuse, mais pas vraiment, mais toi tu sais parler que de musique au téléphone. Et voilà, et en fait, je l'ai suivie dans un autre bus. Elle s'appelle Krista Williams, c'est une chanteuse. Elle m'a donné une adresse pour aller à une jam dans un lieu qui s'appelle le Sirius à Lyon. En fait, c'est là que j'ai rencontré toutes les personnes avec qui j'ai commencé à faire de la musique. Beaucoup de personnes qui sont encore vraiment dans mon entourage et ma famille maintenant, quoi. Et au Sirius, il y avait des jams jazz tous les mardis soirs. Donc moi, j'y étais tous les mardis soirs. J'ai commencé à me poser la question des tonalités, quoi. Parce que moi, quand j'étais enfant, je voulais juste chanter « I will always love you » dans la tona de Whitney Houston.
Super dur.
En faisant des polypes, du coup, au corps vocal, tu vois.
Est-ce que tu peux y arriver maintenant? Tu nous ferais une petite démonstration?
J'ai pas la tonne en tête. Mais voilà, en fait, c'était ça. Et puis j'adorais, j'ai découvert vraiment Ella Fitzgerald. Et à chaque fois, on me demandait ma tonne. Et du coup, je savais pas. Donc je faisais, ah, tu peux faire ça, tu peux appuyer là. Enfin, normalement, je me suis dit, bon. Et en fait, c'est vraiment ça. C'était pour communiquer. Moi, j'avais pas besoin. Enfin, je croyais. Mais c'est vrai que voilà, les choses elles sont devenues plus ergonomiques à partir du moment où j'ai compris les enjeux musicaux.
Oui, et puis du coup, tu pouvais communiquer, donc ouais. Créer avec d'autres.
C'est ça.
Ouais.
Et voilà, j'ai vraiment appris avec ce milieu-là, qui est le milieu vraiment très jazz de Lyon. Mes meilleures amies, c'était des chanteuses qui ont fait du coup le conservatoire. Donc moi, j'étais un peu à côté. C'était une belle époque.
Chanter, on comprend, ça a d'abord été pour toi une passion, aujourd'hui c'est ton métier. Et pourtant, plutôt que de dire « je suis chanteuse », tu as confié que tu préférais dire « je chante ». En quoi cette nuance, elle est importante?
En fait, j'ai toujours dit que je n'avais pas choisi d'être chanteuse, parce que ce n'était pas du tout quelque chose qui était dans mes... culturellement même, enfin... C'était, je suis d'une famille en plus de gens qui aiment beaucoup les études. Ma mère, là, elle est en thèse, quoi. Ma tante aussi, enfin bref. Et moi, voilà, à la base, je voulais faire des études de journalisme et de Sciences Po. Et en fait, il y a un moment où j'ai commencé à aller dans les jams, donc à chanter beaucoup. Puis après, on m'a proposé des groupes. Et d'un coup, j'avais plus besoin pour gagner ma vie, de garder des enfants. Mais c'était finalement ça qui me rapportait aussi un peu des sous. Et je me souviens d'un moment en licence où je me suis dit, mais j'arrive plus à savoir si je suis une étudiante qui chante un peu ou une chanteuse qui finit ses études. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, ah ben, je suis chanteuse. Mais c'était comme si je constatais que j'étais chanteuse. Et donc, du coup, j'étais chanteuse, voilà. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est une identité, en plus, l'identité de chanteuse, qui nourrit plein de fantasmes, qui peut vraiment coller beaucoup à la peau. Je sais pas, les gens, ils associent forcément toujours quelque chose en lien avec l'image, le style... Pour certains musiciens, instrumentistes, l'incompétence musicale en général.
Ça te semblait réducteur,
oui,
pour te définir.
Mais oui, et puis au-delà même de la réduction dans le cadre musical. C'est-à-dire que moi, j'adore la musique, de fait, mais c'est un médium. C'est-à-dire que si taper sur une table toute la journée, ça me faisait faire la même chose que de faire de la musique, je ferais ça. Et du coup, je pense que je suis complètement... c'est probable que je fasse autre chose dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans. C'est possible, quoi. Et mon horizon et mon ambition, qui est juste d'être alignée avec qui je dois être quand je dois l'être, elle dépasse le fait d'être chanteuse. C'est quelque chose que j'adore en ce moment et depuis maintenant assez longtemps. Mais c'est pas qui je suis en fait, c'est ce que je fais. Ce que je fais en ce moment et sûrement pendant encore un moment, mais c'est pas qui je suis, quoi.
Je ne veux pas être nyanga. Laissez-moi raser mes sourcils et faire tout ce qu'il ne faut pas pour être cute comme il est. Je ne veux
Se reconnecter à son corps, Cindy Poche, est aussi en disposer soi-même et notamment s'affranchir de certaines injonctions qui peuvent être familiales ou sociétales. Cindy Poche sourit, elle me voit arriver avec mes gros sabots. En tout cas, s'affranchir de ces injonctions, c'est ce que tu clames de manière assez vibrante sur un titre qui s'appelle Nyanga. C'est en quelle langue Nyanga et ça veut dire quoi? Je ne veux pas être Nyanga.
Nyanga, je ne saurais pas dire en quelle langue c'est, mais c'est une expression qu'on utilise au Cameroun. Au Cameroun, il y a plus de 270 ethnies et donc langues. Et ça, ce n'est pas d'une de ces langues en particulier. Dans l'album, il y a des chansons qui sont en banane, par exemple. Ça, c'est très spécifique. Nyanga, tout le monde dit Nyanga. J'avais rencontré aussi la chanteuse Neka qui m'a dit qu'au Nigeria, ils disaient aussi Nyanga.
Okay.
Et en gros, c'est un terme qui parle de la coquetterie. Moi, par exemple, j'étais tout le temps en train de me mettre du vernis à pas d'heure quand j'étais ado et ma mère elle me disait tu aimes trop le nyanga, c'est ouais, se faire jolie, s'apprêter quoi. Et moi cette expression là je l'emploie pour parler plutôt des injonctions très très précises, vraiment de la liste, de la charte de c'est quoi être bien, être cute, être jolie. Et je ne veux pas être nyanga, ça veut, enfin c'est aussi un pas et une ambition vers la beauté plutôt que vers la joliesse, qui pour moi est quelque chose de très limité, parce qu'en fait c'est des codes assez précis, que dans le nyanga, dans le sens de juste joli, ben en fait ça exclut le bizarre, ça exclut le dérangeant. Enfin, j'aime bien faire la différence entre ce qui est beau et ce qui est joli, quoi.
C'est pour ça que tu chantes d'ailleurs « Je suis belle, je ne suis pas mignonne ».
C'est ça.
Laissez-moi raser mes sourcils et laissez-moi faire tout ce qu'il ne faut pas. Je ferai comme tous ces hommes qui font bien tout à leur aise.
Ouais. Et ce morceau, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à l'assumer. Parce que c'est un peu le seul morceau de tout ce que j'ai fait là qui est autant premier degré. C'est-à-dire que généralement, la plupart des morceaux que je fais, c'est des morceaux plutôt, assez poétiques. En tout cas, moi j'y mets ma poésie et c'est des choses qui ont plutôt vertu à m'apaiser. Et là j'étais en colère, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai un rapport particulier à la colère. Qui est aussi une émotion que j'essaye de reconquérir. Je suis en mission. Et Nyanga, c'était un morceau parce que j'étais vénère, quoi. Quelqu'un m'avait dit encore pourquoi tu t'es rasé les sourcils. Enfin, un gars m'avait dit encore pourquoi tu t'es rasé les sourcils. Plusieurs gars me l'avaient dit, alors que finalement, les filles, elles étaient soit elles s'en foutaient, soit elles trouvaient ça cool, soit elles trouvaient ça drôle, soit elles trouvaient ça beau, soit elles trouvaient ça fort. Et puis je sentais qu'ils étaient dérangés, quoi. Tu vois, ça
les perturbait.
Ça les perturbait, ça correspondait pas à leurs attentes. Et en fait, voilà, ça, j'étais énervée. J'ai fait ce morceau que j'ai eu beaucoup de mal à écouter parce que c'était comme si... c'était juste de la colère qui avait explosé de moi et j'avais pas forcément l'habitude de ça. Il est beaucoup partagé aussi. À chaque fois,
je pense qu'il y a du coup... Tu libères une certaine forme de colère dans laquelle beaucoup de femmes peuvent se reconnaître.
Oui, et je suis trop contente pour ça et c'est ça qui fait aussi que j'en suis... Enfin, c'est précisément parce que je vois que le message, en tout cas, il fédère beaucoup de personnes. Pas que des femmes d'ailleurs, c'est ça qui fait que je l'assume presque aujourd'hui. Mais sinon, c'était comme si c'était un endroit un peu impudique, alors que pourtant, moi, je suis plutôt pour le fait d'aller creuser, quoi. Mais là, ça s'est venu toucher un endroit pas habituel pour moi, quoi.
Le retour au corps, puisque c'est de ça dont on parle depuis le début de notre entretien, Cindy Poche, il passe aussi pour toi par la connexion avec tes racines camerounaises. Tu l'as dit, tu as vécu au Cameroun de tes 5 à tes 18 ans. Et c'est le pays de tes deux parents, le Cameroun ?
Oui.
Et cette connexion justement avec le Cameroun, le pays de tes parents, elle passe aujourd'hui dans ta musique par la langue, notamment. Sur ton premier album, tu chantes principalement en français, mais aussi par touche en banen, une langue qui est utilisée au Cameroun dans les régions du littoral et du centre par les populations banen. Qu'est-ce qu'elle dit de toi, cette langue ?
Alors déjà, je voudrais dire que le Cameroun, c'est pas seulement le pays de mes parents, c'est mon pays.
Ah pardon, tu fais bien de le préciser.
Non, mais c'est vrai parce que vu que par exemple, mon premier accent, ça a été un accent français. Quand je suis ici, on se doute pas forcément que j'ai pas grandi ici. Mais voilà, dans mon cas, c'est vrai que c'est mon pays. Là, maintenant, quand je rentre au Cameroun, je dis que je rentre chez moi. J'ai pas de maison familiale en France, quoi. Ma mère habite là-bas, donc c'est vraiment mon chez-moi. Et le banen, malheureusement, ne m'a pas été appris. C'est la langue de ma grand-mère maternelle qui parle français avec nous et avec ses enfants. Mais par contre, elle a toujours chanté en banen. Il y a toujours des petites expressions en banen. Mon grand-père le parle aussi, donc ils parlent entre eux en banen. Donc je savais que j'allais venir en France à mes 18 ans pour, après le bac. Et plus le temps approchait, et plus je disais à ma grand-mère, là, il va falloir que tu m'apprennes, quoi, parce que je vais partir. En fait, elle ne l'a pas fait parce que on avait deux habitudes, quoi, on avait d'autres fonctionnements. Et je pense que c'était un peu tard. Et plus j'ai passé de temps en France,
et plus tu as envie de revenir.
Ouais. C'est ça. Ma mère, elle m'avait dit, tu verras, de toute façon, même tous les plats que tu n'aimes pas, tu verras bien, plus tu traîneras là-bas.
Puis, puis ça va te manquer.
Des trucs qui me dégoûtaient, j'adore. Et en fait, le banane ne me dégoûtait pas. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi... je me suis accrochée à ça. En plus, c'est pas la langue de mon père, c'est pas la langue de même mon grand-père paternel. En fait, moi, je suis un quart banane, quoi, et trois quarts nyokon, on va dire.
D'accord.
Et mais le banane, je sais pas, c'était un moyen de me raccrocher justement à mes racines. Et du coup, j'ai essayé d'en mettre un peu dans tous les groupes que j'ai eus, dans Tikaniki, on faisait du maloya, je faisais des morceaux en banane, enfin, j'en ai mis partout, quoi. Et voilà, et je sens que là, ça me reconnecte aussi quelque part. Au Cameroun, ils sont... j'ai fait des morceaux en banane qui sont passés du coup à la radio, à la télé au Cameroun. La chorale banane de ma grand-mère est trop contente. Enfin, je suis hyper génial. Fière de pouvoir apporter ça. C'est une petite ethnie en plus que pas grand monde connaît.
Voilà. Mes Pâques, mes Pâques, mes Pâques, mes Pâques. Mes Pâques, mes Pâques, mes Pâques, mes Pâques. Mes lettres
à Marseille, au Babel Musique XP, en tête à tête avec Cindy Poche, qui nous explique le contenu de ce titre, Poulile, chanté en grande partie en banen, la langue camerounaise de sa grand-mère maternelle.
Poulile, ça parle d'une lassitude, de constater l'état des choses, du manque d'amour, de la stagnation dans une espèce d'état énergétique, de vibration énergétique hyper bas. Et ça parle de la volonté que demain soit meilleur, quoi, que mes Pâques, ça commence par mes Pâques, c'est je pars, quoi, c'est vraiment un mouvement pour du mieux. Et c'est très marrant parce que donc ça dit juste espérons que demain soit mieux. Et en fait, à la fin de Poulile, je me souviens au moment où je travaillais dessus, j'avais fait pas mal de tests avec plusieurs personnes pour m'aider à peaufiner la prod. Et en fait, j'avais reçu une prod qui allait pas du tout et j'étais désespérée. En fait, je me disais... il y a un truc un peu hybride, mais j'ai l'impression que personne comprend. Et en fait, du coup, j'ai enregistré « Demain, c'est quand demain ? Je suis fatiguée, tout me fatigue, mais presque en pleurs de « Mais j'y arrive pas !»
Et tu l'as gardé.
Et du coup, je l'ai gardé. Donc, je suis trop contente que ce moment de détresse ait été conservé.
C'est au Cameroun, Cindy, je crois que tu as été immergée dans le chant polyphonique qui est aujourd'hui à l'œuvre dans ton premier album où tu superposes comme ça plusieurs voix. Je rappelle que le chant polyphonique, c'est une voix principale et une autre qui tient une note à la même hauteur, mais ça peut être également une voix principale et une voix parallèle qui chantent la même mélodie. en même temps, mais à hauteur différente. Et ça peut être aussi une voix principale et un contre-chant. Enfin, il y a de quoi s'amuser. Est-ce que c'est dans ta famille ou en tout cas dans ton entourage proche que tout le monde chantait à plusieurs voix?
Ouais. Oui, oui. Moi, je connaissais même pas. J'ai jamais entendu le mot chant polyphonique, quoi. Mais ouais, je pense que c'est culturel parce que vraiment, il y a plein de chants où tout le monde connaît les voix, quoi. Et puis les gens, même s'ils chantent pas bien, tout le monde sait. Enfin, à la messe, je suis d'une famille très très catholique, donc on allait à la messe tous les dimanches. Et vraiment, tout le monde entonne les trois voix différentes. Enfin voilà. Et j'ai toujours entendu les gens chanter comme ça. Quand on apprenait une chanson, ma grand-mère, elle nous disait, il y a cette voix et cette voix, quoi. Après, elle disait pas c'est une tierce ou c'est une quinte. Mais on apprenait les voix. Là encore, j'étais au Cameroun pour les 80 ans de ma grand-mère en décembre. Et du coup, on m'a mis en charge d'animer la chorale, de gérer la chorale. Et tout le monde chante à trois voix, quoi. Moi, j'organisais un peu, mais...
Ça se fait naturellement.
Ouais, même si ça chante pas forcément hyper juste ou quoi. Ouais, cette culture-là du chant à plusieurs et de créer un son avec plusieurs notes. Fin... Et puis, c'est pareil pour la polyrythmie. Je sais qu'il y a des morceaux que j'ai appris à des potes ici qui font du jazz en tapant des mains à certains rythmes et qu'ils étaient là, mais... Mais c'est ternaire ou c'est binaire? Je ne sais pas.
C'est comme ça.
Ma mamie qui m'a dit. Et c'est assez naturel, ouais. En tout cas dans ma famille.
Tu parlais de l'église ou que tu fréquentais tous les dimanches. Si j'ai bien compris, à l'adolescence, toi, tu vas pratiquer le chant polyphonique, mais à travers le gospel.
Ouais.
Dans quel cadre ça se passait justement? Ça se passait à l'église ou pas du tout?
Alors.
Et tu te souviens des morceaux du coup que tu travaillais à l'époque?
Bah en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu un moment donné où je suis vraiment rentrée dans la chorale d'une église. Je me souviens, c'était l'église de l'Université catholique d'Afrique centrale. Donc c'était trop marrant. Moi, j'étais au lycée, puis j'allais avec les étudiants chanter. Et là, du coup, nous, on n'appelait pas ça du gospel. Mais ce serait l'équivalent du gospel, mais au Cameroun. Et du coup, comme c'était l'Université d'Afrique centrale, il y avait plein de langues. Donc on chantait en Swahili, on chantait en Ewondo, qui est une langue du Cameroun, en Bamileke, qui en est une autre. Plein de langues comme ça de plusieurs pays africains. On avait des tenues super colorées, on dansait, il y avait des tambours, c'était trop bien. Ça, c'était cette forme de gospel, plus des chants religieux traditionnels africains. Et à côté, j'ai une de mes tantes qui m'a, alors c'est très particulier, mais qui m'a offert des cours de gospel. En fait, il y a un...
Ayaoundé, où tu
Ayaoundé, une de ses connaissances qui tenait un chœur de gospel à Grenoble, qui était camerounais, qui rentrait au Cameroun pour assister son père pendant un an. Et du coup, qui faisait des petits ateliers de gospel. Et donc, ma tante a décidé de m'offrir ça, enfin de me payer ça. Et c'était hyper marrant parce que j'y allais avec ma meilleure amie, je l'avais embarquée. Et en fait, on était deux. Et on faisait des cours particuliers de gospel.
Génial.
Et ils nous apprenaient des gospels. Et après, on chantait avec une autre chorale où on répétait, quoi. Mais c'était comme des cours de chant. Mais en fait, ils nous apprenaient pas la technique vocale, ils nous apprenaient plein de gospel. Et puis après, on le mettait en
exemple,
pratique.
Exemple.
Il y avait un truc que j'adorais qui s'appelait Silver and Gold, qui faisait Silver and Gold, Silver and Gold, I'd rather have cheese than Silver and Gold. C'est trop beau. J'ai adoré.
Et tu as confié qu'après tu t'étais lassée du gospel, c'est ton expression. Et, mais bon, peut-être j'ai mal lu, hein. Et que c'est une musique emblématique de l'île de la Réunion, le Maloya, qui a pris le relais en fait en quelque sorte. Et que ce blues ternaire, qui est, je rappelle, hérité des esclaves malgaches et africains, t'a offert un nouvel écrin en fait pour pratiquer le chant à plusieurs voix. Comment ça s'est fait cette rencontre avec le Maloya?
Il y a un moment où mon rapport aux musiques nord-américaine en général, c'est un peu dégradé parce que je me trouvais comme assignée à ce style. C'est-à-dire que j'étais une chanteuse noire, j'avais encore mes polypes, donc la voix encore plus éraillée. Et du coup, j'étais une chanteuse de funk, j'étais une chanteuse de soul. J'ai beaucoup fait ça à Lyon. Et moi, au final, je trouvais que c'était assez loin de mon identité. Enfin, à cette période-là, j'écrivais plus du tout en français. Enfin, et en fait, ça n'a pas été que le Maloya, mais il y a vraiment un moment où je faisais que des musiques afro-américaines. Et après, je me suis mise à apprendre des choses comme plus le curulao colombien ou le maloya. Et en fait, le maloya, ça a été une rencontre incroyable, parce que c'est un ami qui n'en était pas encore un à l'époque, mais qui s'appelle Adrien Santos da Silva, qui est un batteur de jazz, est tombé fou amoureux de cette musique en allant à La Réunion, est revenu à Lyon et a créé le Tikaniki, ce groupe de Maloya.
Tu fais toujours, ou en tout cas tu
je
as...
ne fais plus partie ah, depuis quelques mois.
Mais depuis quelques mois seulement.
C'est ça, ouais. Depuis seulement décembre et on a passé 7 ans merveilleux ensemble avec ce groupe. Et oui, et en fait, je suis juste allée voir des amis faire du Maloya, je ne connaissais pas, sur la même péniche, le Sirius, la fameuse péniche où j'ai fait toutes mes premières jams. Et je me souviens d'arriver et d'écouter ça et d'entendre ça et de me dire mais qu'est-ce que c'est quoi. Et je pense que ça m'a touchée aussi à un endroit culturel parce que ça me faisait vraiment penser à des styles de musique camerounaise. Même dans la façon dont ils dansaient, il y a des pas, je me souviens, il y a des morceaux de Maloya qui me font penser à du Ben Sikin, qui est un style camerounais. Et en fait, je leur ai juste dit à la fin du concert, c'est fou, enfin, qu'est-ce que c'est? Et ils m'ont dit, on t'envoie tout sur la Dropbox, viens, on répète jeudi, quoi. Et ça a duré 7 ans.
Ah, génial.
Ouais. Et j'ai galéré à apprendre le créole, parce que moi, j'ai écouté beaucoup de zouk plus jeune, et du coup, je connaissais mieux le créole guadeloupéen ou martiniquais. Et là, j'ai découvert le créole réunionnais. Et là, effectivement, il y avait la polyphonie, mais d'un endroit qui, moi, me touchait peut-être de manière plus profonde pour les origines africaines, en fait.
Oui, ça faisait résonner quelque chose en toi.
Pour qu'à danser grand moun là-bas,
dada bé mama bé à moi.
Pour qu'à danser grand moun là-bas,
dada bé mama bé à moi.
Pour qu'à danser grand moun là-bas,
dada bé mama bé à moi.
Pour qu'à danser grand moun là-bas,
dada bé mama bé à moi.
Et je crois que parmi les artistes du Maloya, il y en a un qui te touche particulièrement, qui s'appelle Daniel Ouaro. Et tu as dit de lui quelque chose que je trouve très vrai. Tu as dit de Daniel Ouaro, sa musique lui ressemble. Et je trouve ça tellement joli. Tu l'as déjà rencontré?
Oui, en fait, c'est, pour moi, c'était un peu un de nos tontons quoi, de Tikaniki. On l'a rencontré, on a fait quelques trucs.
Mais c'est vrai que Daniel Ouaro, c'est quelqu'un... on n'a pas besoin de comprendre le créole pour être submergé d'émotions par son chant. Oui. Mais n'empêche, je conseille à tout le monde de prendre le temps d'écouter sa poésie, parce que c'est vraiment c'est quelqu'un qui donne des rimes au Maloya. C'est vraiment quelqu'un qui goûte la rythmique des mots, leurs couleurs, leurs saveurs et leurs chocs aussi. Il faut dire que le créole, c'est une langue très imagée, donc ça aide. Mais je parle de Daniel Ouaro aussi parce que je trouve que dans ce goût des mots, ben, on retrouve de ça chez toi, Cindy Poche, dans tes textes qui sont largement en français dans le texte. Et je parlais du choc chez Daniel Ouaro, mais toi aussi, tu aimes les contrastes, les extrêmes, l'ombre, la lumière, le chaud, le froid, les mois, l'effroi. Dans ton écriture, tu vas chercher des sensations.
Petite obsession pour les contrastes par ici, j'avoue.
L'histoire raconte que c'est ton grand-père qui était écrivain et qui t'a initié à la poésie. Comment il s'y est pris?
Mais en fait, je ne sais pas s'il m'a initié consciemment à la poésie. C'est comme si on s'était retrouvé à l'endroit de la poésie. Moi, je me souviens de mon premier poème, je ne sais pas, je dois avoir 5 ans, et ça commençait par « Si j'étais un lapin, je mangerais du pain ». Et je me souviens vraiment que j'écrivais plein de poèmes, quoi, et que ma mère, elle se disait « Mais c'est fou, quoi, elle a ce truc des mots comme mon père ». En plus, j'ai pas grandi, moi, avec mon grand-père, puisqu'il était au Cameroun. Enfin, toute petite, et moi, j'étais en France. Mais c'est vrai que c'est un endroit où on s'est comme retrouvés, et après, c'est devenu notre lien, quoi. Je sais pas, il déclamait tout le temps des poèmes, il chantait tout le temps. D'un coup, il écrivait une chanson pour ma grand-mère, super poétique, et il nous faisait répéter pour lui chanter le jour de son anniversaire. Voilà, je pense que ça a été plus un endroit de lien, une vision aussi sur la vie, très poétique. Il m'a pas initié de manière très consciente à ça, mais il m'a accompagné et inspiré.
On a parlé, Cindy, de ta maman, oui, de ta grand-mère, de ton grand-père, qui tous, à leur manière, ont laissé une empreinte sur toi. Et pourtant, il y a un titre, je crois que c'est le sang, tout simplement. Tu dis « Le sang ment ». Oui. Comme pour dire justement que les liens du sang ne nous définissent pas, ou en tout cas pas seulement. Oui. C'est ça que tu voulais dire ?
Oui, parce que tous les liens que tu décris avant, c'est des liens qui sont vivants. C'est pas juste les liens du sang, c'est des liens qui ont été fertilisés, qui sont vivants. Et en gros, cette chanson, c'est juste pour dire... en fait, il y a une expression au Cameroun qui dit « le sang ne ment pas ». Si tu ressembles à ta mère ou ton père, c'est pour dire « le sang ne ment pas », quoi, on le voit. Et je pense que c'était un peu pour parler de ce rapport-là à la famille. Moi, par exemple, je parle pas à mon père, et donc du coup, à cet endroit-là, ben, le sang ment, parce que c'est pas parce que c'est un membre de ma famille qu'on a quelque chose qui nous relie, en tout cas dans du lien vivant, quoi. Et en fait, c'est aussi ce truc autour de la famille qui peut paraître hyper sacré. Moi, pour moi, la famille, c'est hyper important, mais c'est pas sacré comme certaines personnes, leur rapport à Dieu, quoi. Sinon, tout est possible, sinon tout est acceptable. Enfin, moi, ça m'a fait du bien d'avoir de la lucidité aussi sur...
Prendre de la distance.
Prendre de la distance, et en fait, non, je suis pas assujettie à ce lien si j'y adhère pas, et si... Et s'il n'est pas vivant, en fait.
L'album Cindy s'ouvre par Issemou, qui veut dire lumière en banane, et se referme par le titre Rien de mal. Mm. Et c'est par ce titre aussi que j'aimerais qu'on referme notre entretien. Mais est-ce que tu veux bien nous expliquer comment est née cette chanson où tu dis, on part du principe que c'est beau, que c'est doux, ça tu le dis en ouverture et en fermeture, que si tu m'en veux, tu me diras beaucoup, et le cœur d'enfant comprend, mais ne veut pas. Et le cœur du grand, il ment, il perd sa foi. Mm. Je ne fais rien de mal, je ne fais rien de mal, que tu répètes comme un mantra. Mm. Est-ce que tu veux bien nous expliquer?
Surtout, comment... je suis en train de me dire, mais c'est quoi ces paroles?
Comment est née cette chanson?
Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de fois où j'écoute, parce que j'écris vraiment en écriture automatique, et après, des fois, je relis, je suis là genre, what the fuck? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et donc là, je suis en train un peu de me dire ça. Non, on part du principe que c'est beau, que c'est doux. Je me souviens que je me suis réveillée, enfin que j'ai rêvé de cette phrase avec cette mélodie et que du coup je l'ai continuée une fois réveillée. Avec le recul, parce que je me suis posé des questions sur cette chanson, je me suis dit que c'était vraiment une forme d'aveu, une forme de mauvaise foi. Parce que pour répéter autant, je ne fais rien de mal, faut pas être si sûr que ça, quoi. Et du coup, je pense que c'était un moment où j'avais l'impression de peut-être faire du mal à quelqu'un. Et que je me disais, on part du principe que c'est beau, que c'est doux, on fait confiance, que si tu m'en veux, tu me diras beaucoup, enfin, tout va bien, tant que ça va, ça va. Et le cœur d'enfant comprend mais ne veut pas. C'est aussi, je sais pas, les différentes parts de nous qui regardent les choses qu'on fait et qui les interprètent. Et pour moi, il y a quand même toujours un petit truc qui sait, quoi. Vraiment, la voix de l'intérieur, elle sait exactement si on est aligné, si on l'est pas. Et c'est oui, et le cœur du grand lui ment, il perd sa foi. Ouais, c'est comme si la part de nous un peu adulte, elle peut essayer de nous duper et de nous enlever cette espèce de foi un peu pure entre guillemets en la vie, quoi, en tentative de se compromettre un peu, quoi. Mais voilà, avec le recul, j'ai vraiment rigolé. Je me suis dit, non mais vraiment, tu te fous de qui? La meuf répète 20 fois, je ne fais rien de mal. Non mais c'est louche en fait, c'est louche. Voilà.
Merci beaucoup Cindy.
Merci
de nous avoir fait beaucoup de bien et de continuer à le faire en musique.
Merci.
Merci beaucoup.
On part du principe que c'est beau, que c'est doux. Que si tu m'en veux, tu me diras beaucoup. Je ne fais rien de mal.
nous voici de retour au Dock des Suds à Marseille, au Babel Music XP, impatients de découvrir pour la première fois Cindy Poche en live. Un grand merci à Frédéric Miguel et à toute la fine équipe du Babel Music XP qui ont rendu cette rencontre possible, une rencontre à corps et à cœur, à l'image du premier album de Cindy Poche, In Nomine Corpus, sorti sur le label In Fine. Merci aussi à mes petites voix intérieures, à moi, Benjamin Sarallier qui a réalisé cette émission, Jérémy Besset qui l'a mixé en Dolby Atmos pour une écoute immersive au casque et Xavier Gibert qui l'a produite pour RFI Labo. À très vite dans vos oreilles.
Je ne fais rien de mal. Je ne fais rien de mal.
On part du principe que c'est beau, que c'est doux.